RMC, le week-end des experts. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Très bon dimanche avec RMC. Merci de nous être fidèles, vous le savez, comme chaque samedi dimanche matin avec le week-end des experts. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien réveillés. Un week-end des experts un peu particulier en ce dimanche puisque nous n'allons avoir qu'une heure d'émission ensemble à partir de 7h. Place à la F1 et le Grand Prix de Chine que vous pourrez suivre en direct et en intégralité. Ce qui fait qu'il n'y aura qu'une heure d'animaux et pas de rendez-vous auto. La bonne nouvelle, c'est qu'on sera de retour avec tous vos rendez-vous habituels la semaine prochaine. Donc on a une heure à passer ensemble et cette heure, évidemment, on va la passer avec notre vétérinaire préférée, Laetitia Barlerin, qui m'accompagne. Bonjour Laetitia.
Oui, bonjour François, bonjour à tous.
Alors une heure qui va être dédiée aux questions des auditeurs.
Voilà, hein, libre antenne, comme on dit.
Bien évidemment, à tout moment, vous pouvez joindre notre vétérinaire, le 3216 est là pour ça, 3216 ou animaux@rmc.fr. Pas de quiz de la vie privée des animaux, on se rattrapera la semaine prochaine, Laetitia.
Oui,
comme ça, mon honneur sera sauf pour ce dimanche. Hein. Voilà. Mais en revanche, on va s'intéresser un peu à l'actu dans le monde du documentaire animalier parce que mardi prochain sera diffusé en fait un super documentaire qui est la suite en fait d'un premier numéro qui a remporté un énorme succès d'audience.
Voilà, ce documentaire s'appelle Le plus beau pays du monde. Alors le plus beau pays du monde, ben c'est la France.
Et, oui.
Et c'est un documentaire animalier sur les animaux sauvages en France. Et le premier opus est passé à Noël 2013. 7 millions de téléspectateurs, ça fait vraiment un carton sur France 2. Et du coup, ils ont décidé de faire un deuxième opus. Et d'ailleurs, le troisième est en préparation. C'est la petite info. Et donc, nous aurons avec nous le réalisateur qui nous parlera de ce second opus.
Voilà, les premiers jours d'un fan aux côtés de sa mère, mais aussi la rivalité entre deux chevaux sauvages dans les montagnes du Pays Basque. On parlera de tout cela donc avec le réalisateur Frédéric Foujat qui sera là. On vous attend, 3216, animaux@rmc.fr. Bienvenue dans ce week-end des experts animaux. Et on accueille tout de suite Simon qui est là. Bonjour Simon.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour.
Bienvenue. Un vrai bonheur de vous entendre tous les week-ends.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Simon, on est ravis de vous entendre.
Et d'autant plus que je vous ai appelé il y a à peu près un mois pour une de mes chattes, je ne sais pas si Laetitia s'en rappelle, que je lui avais donné pendant quelques semaines des croquettes que je croyais être des croquettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Oui.
Et qui en fait étaient des catiches fractionnes, je ne sais pas quoi.
Ah, des friandises.
Voilà, des friandises. Oui. Et que je lui avais donné beaucoup et que vous m'avez dit d'arrêter. Parce que ça pouvait la faire grossir ou prendre de la graisse.
C'est comme si nous, on mangeait du chocolat toute la journée, quoi.
Voilà.
En gros.
C'est une friandise. Voilà. Alors, vous pouvez en manger toute la journée si vous voulez, Simon,
si vous mangez
chocolat.
Des gâteaux comme la semaine dernière, toute la journée, toute la matinée.
C'est-à-dire, votre médecin ne sera pas content, quoi.
Non.
Disons que j'ai un petit problème, c'est que cette chatte, elle, c'est vraiment très drôle, mais c'est pas marrant pour elle. Elle ne mange plus que ça. Je veux dire, elle réclame ça. À chaque fois qu'on s'assoit à table, c'est pour réclamer ça. Et main, main, main. C'est vraiment
Vous savez interpréter le langage du chat?
Oui.
Elle sait dire mia mia mia. Je veux ça.
Ah oui, ça c'est très net. On la comprend. Alors là, elle se fait très, très, trop bien comprendre. Alors j'aurais voulu savoir s'il y avait pour les chats des stages de désintoxication.
Mais c'est marrant parce que vous savez que le producteur de ces friandises, comme d'autres friandises d'ailleurs, reçoit aussi des coups de fil de personnes qui croient qu'il met de la drogue pour chat dans ses
friandises. Mais en tout cas, il a réussi sa recette, le gars. Hein.
En tout cas, la recette. Alors, je crois que la recette est dans un coffre-fort au fin fond d'un océan.
C'est comme le Coca-Cola, en fait.
Voilà. Ouais,
c'est ça.
Il a dû faire fortune, hein, parce que je vous assure que j'ai deux chattes, la mère et la fille, et la fille en mange raisonnablement.
Ah, écoutez,
mais là, c'est vraiment absolument incroyable.
Écoutez,
vous avez testé auprès des chats?
Alors justement, suite à votre intervention, Simon, j'ai acheté ces fameuses friandises. J'ai proposé.
Mais ça se présente comment en fait? C'est quoi?
Alors ça ressemble à des. Vous savez les cornflakes fourrés là qu'on prend le matin. C'est pareil.
D'accord.
Ils sont carrés là.
Ah, oui.
Ça ressemble à ça. C'est des petites friandises. Et dedans, c'est ils mettent. Alors il y a beaucoup de matières grasses, il y a beaucoup de protéines. Donc c'est pour ça que les chats aiment. Puis je pense que c'est une odeur, une saveur que les chats aiment. Alors je peux vous dire que moi j'ai testé chez moi. Alors, j'ai pas goûté, moi. Par contre,
parce
mon chat.
Parce que d'habitude, vous goûtez tout
ça. Oui, mais là, je me suis dit, bon, je vais tester auprès de mon chat. Alors, mon chat a regardé ça, a senti bof. Par contre, mon chien, il a fait des pirouettes arrière pour en avoir.
C'est pas vrai.
Oui, mais mon chat n'en a pas voulu.
Alors que normalement, c'est les friandises pour chat.
Oui, mais c'est tellement...
Oui,
voilà, c'est souvent les friandises pour chat, les chiens adorent. Donc, vous voyez...
Et ça sent quoi? Ça a une odeur particulière?
Ça sent un peu le poisson, je trouvais, mais
d'accord.
Bon, voilà, c'est...
Alors, comment faire pour désintoxiquer?
Bah, c'est très simple, faut pas en donner. Non, faut en donner. C'est des friandises, donc ça veut dire que c'est donné. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est rituel, mais faites attention parce que vous, là, vous êtes rentré dans le jeu de votre chat. Vous dites, mon chat miaule et vient me voir au moment où je me mets à table, donc ça veut dire qu'il veut ses friandises. Non, votre chat, c'est un peu du conditionnement que vous avez fait là. C'est-à-dire que il miaule, vous lui avez donné, donc il miaule puisqu'il a eu une récompense, une belle récompense puisque ce sont ses friandises préférées. Donc il faut casser ce conditionnement. C'est-à-dire que quand il miaule, eh ben vous faites comme si vous ne l'entendiez pas. Et vous ne lui donnez pas, mais vous lui donnez à des moments où c'est mieux pour vous, pas quand vous êtes à table, bien sûr. Par exemple, je sais pas, le matin, après votre petit déjeuner, et ben c'est un rituel avec votre chat. Vous l'appelez, vous le caressez, vous lui donnez cette friandise. Point barre. Mais c'est ce rituel que vous devez instaurer.
Mais c'est une par jour.
Oui, une, deux ou trois par jour, mais pas plus.
Oui.
C'est une friandise, comme je disais. C'est comme si on vous donnait du chocolat à un enfant.
Quand il a plus ça, il doit se retrouver avec des mets qui ont moins de saveur. Donc il doit moins les manger avec intérêt.
Oui, mais vous savez, c'est s'il a faim, il va manger ses croquettes ou ses boîtes ou ses sachets que vous lui donnez de toute façon. Donc continuez à lui donner les croquettes en libre service par jour dans sa gamelle. Vous lui donnez un peu de pâté le matin, un peu de pâté le soir. Moi, j'aime bien associer les deux. Et puis, ces friandises, ce sont des friandises. Donc, normalement, c'est lors d'un rituel, le matin ou le soir, une récompense. Ou alors, profitez-en, puisque votre chat est super motivé par cette friandise, profitez-en pour lui apprendre des tours. Parce que on peut apprendre des tours à un chat, par exemple, à être assis, assis, couché.
D'accord.
On peut apprendre ça avec la petite friandise dans la main, comme ça, et le chat va le faire et va comprendre qu'à chaque fois qu'on lui donne cet ordre-là, il doit s'exécuter pour avoir cette super friandise.
Et puis c'est amusant, enfin voilà, c'est ludique, c'est sympa.
Oui, et puis je vais vous dire aussi, pour votre porte-monnaie, franchement, si vous nourrissez qu'avec ces friandises, au kilo, c'est très cher.
Oui, donc. Bien sûr. Et puis en plus, je veux dire, c'est complètement
c'est déséquilibré, bien sûr.
Au niveau
comme
nutritionnel,
je vous dis, c'est une friandise dont donc, ce n'est pas un repas complet pour chat.
Voilà. Merci en tout cas, Simon, pour votre appel. Laetitia, on va se retrouver dans un instant. Nous aurons Margot avec nous. Le problème, c'est qu'elle a un chat, Margot, qui n'arrête pas de la lécher et la mordre.
Ah.
Ça, c'est embêtant.
Oui, ça, c'est embêtant.
Et voilà. Et pourquoi ? Que se cache derrière ce comportement ? On va retrouver Margot dans un instant. Et puis, je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez joindre notre vétérinaire, Laetitia Barlerin. Ça se passe au 3216. Ou bien, si vous voulez nous envoyer un mail, c'est très simple, animaux@rmc.fr. N'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone. Comme ça, on vous rappelle dans la foulée. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
RMC, le week-end des experts, bon dimanche à vous toutes et à vous tous et merci de nous avoir rejoints en ce dimanche matin. Nous sommes là jusqu'à 7h. À partir de 7h, donc, le Grand Prix de Chine. L'équipe de la F1 prendra l'antenne à partir de 7h, mais le Grand Prix, lui, commencera à 8h. Mais pour se mettre dans l'ambiance, une heure avant, c'est la moindre des choses. Et on retrouvera Jean-Luc Roy et toute la Dream Team F1, donc. Mais d'ici là, Laetitia Barlerin à mes côtés pour toutes vos questions. Animaux, 3216, animaux@rmc.fr. Et on accueille Margot qui est là. Bonjour Margot. Allô?
Allô?
Oui, bonjour Margot.
Bonjour.
Bonjour, voilà, je vous écoute tous les matins, je me le réveille dimanche matin pour vous écouter, j'adore.
Ah, c'est très bien, bravo.
Merci Margot.
Nous aussi.
Je vous appelle, moi j'ai une sacrée, de Birmanie, là, qui est absolument magnifique, qui a 10 mois.
Un sacré de Birmanie, c'est ça?
Ouais.
Oui.
Une minette, une madame, mademoiselle.
Oui.
Donc, elle a 10 mois, je l'ai faite stériliser, elle avait 5 mois à peu près.
Oui.
Donc je l'ai prise dans un élevage, mais elle n'a pas le pédigré parce qu'elle a un petit crochet au bout de la queue. Donc elle n'a pas les 300 pédigrés, mais ça se voit pas. Et sinon, elle était bien, donc elle est élevée en famille jusqu'à 3 mois. On dit toujours qu'il ne faut pas les prendre trop tôt parce qu'après... Alors maintenant, depuis la stérilisation, elle tète, là. Vous savez, le chat qui tète. J'ai même mis une couverture rien que pour elle. Donc, oui. Voilà, elle suce, elle tête, elle met les pattes, elle ronronne comme une folle. Et je la caresse pas, ça ne le fait pas. Mais sinon, voilà, depuis toujours, elle me lèche énormément. Et oui. Après, elle me mord au bout d'un moment. Mais j'ai pas l'impression que c'est méchant. Est-ce que ce serait pas le comportement d'un chaton avec sa mère?
Ça a l'air, hein. Ça a l'air. En tout cas, elle a beaucoup de comportements de chaton. Elle tète, elle ronronne, elle lèche.
Non, elle ne ronronne que quand le matin quand je me lève et quand elle tète.
Voilà. Oui, mais pour vous dire que ce sont des comportements de chaton. Alors, c'est des comportements de chaton qui bien souvent perdurent pendant toute la vie du chat, surtout le chat domestique qui garde.
Chez l'appartement, de chez l'appartement, il n'y a pas de souci. Hein.
Voilà. Ce que j'expliquais, c'est que les chats qui ronronnent, ce sont des chats. C'est la particularité des chats domestiques, c'est quand ils restent avec l'homme, au contact de l'homme, ils continuent à ronronner, alors que c'est un comportement de chaton. Là, vous avez une chatte qui non seulement ronronne, bon, comme tous les chats en contact
jamais,
avec l'homme.
Jamais, à part ce moment-là, sinon elle ne ronronne jamais.
D'accord.
Et vous avez dit parfois le sang à la gorge, mais j'écoute, mais non, je tape, elle ne ronronne pas à la gorge. Elle passe son temps sur moi, mais elle ne ronronne pas. Elle me lèche et elle me mordit. Enfin, elle peut mordre un peu fort quand même.
Ah oui, ça,
bah oui, mais ça c'est typiquement justement comme je disais le comportement du chaton, le fait de ronronner, le fait de vous lécher aussi. On a souvent des chatons qui lèchent, vous savez, leur mère ou la mère qui lèche le chaton. Ça c'est vraiment des interactions qui sont mère petit. Le chaton aussi, ça lui arrive de mordre sa mère parce qu'il sait pas qu'il fait mal tout simplement. Et alors qu'est-ce que fait sa mère? Eh ben elle lui file une baffe pour lui dire là. Tu me fais mal. Mais ça, c'est normal.
Bah,
ça lui
sûr.
Apprend le contrôle de sa morsure, de ses mâchoires. Et donc, ça sera aussi à vous, Margot, de lui apprendre que là, elle a dépassé les bornes, c'est-à-dire elle fait mal. Donc, dès qu'elle vous mord, vous savez ce que vous faites? Vous faites une pitchenette sur le nez du chat pour lui dire, en disant non.
Donc on tape un petit peu sur son
voilà,
sur sa truffe.
Avec vous savez avec votre doigt vous lui faites une petite pitchenette sur le nez. Ça fait mal. Enfin c'est désagréable. Hein, c'est pas quelque chose qui fait très mal. En tout cas c'est désagréable pour le chat. Et du coup elle va s'arrêter. Vous dites non et vous enlevez le bras par exemple si elle essaye de vous mordre le bras. Parce que elle est dans une phase d'excitation du fait que comme un jeu. C'est exactement comme un jeu, comme un chat qui joue. À un moment il est tellement excité qu'il vous mord mais il sait pas qu'il vous fait mal. Donc c'est pour ça qu'il faut lui apprendre.
Petite tape régulièrement après l'acte, après la morsure.
Au moment où il mord.
Au bout d'un moment, il va comprendre.
Ah oui, il va comprendre. Et alors, vous pouvez aussi le prendre par la peau du cou et le plaquer au sol. Mais ça, je déconseille. Ce qu'il faut, c'est vraiment lui dire non et puis s'en aller pour bien lui signifier là, t'as dépassé les bornes. Donc il va comprendre le chat et il va être plus.
Et ça arrête son jeu aussi. Donc il va être un peu déçu. Donc il va comprendre qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien.
Exactement. Et là, vous avez en plus une race qui est très sensible. Faut savoir que le sacré de Birmanie, qui est quand même un des chats préférés des Français, chat de race préféré des Français, vous savez, c'est ces beaux chats à poils longs, qui sont blancs avec les extrémités plus foncées, comme les Siamois, et qui ont des beaux yeux bleus. Et particularité du sacré de Birmanie, ses gants, c'est-à-dire que les quatre pattes sont blanches, le bout des quatre pattes sont blancs. Pour ces chats qui sont très sensibles, qui sont très liés à leur maître. Alors, par exemple, si vous travaillez 8 heures par jour et vous n'êtes pas à la maison, vous ne prenez pas ces chats-là parce que ils
souffrent quand il n'y a personne à la maison,
vraiment.
D'accord.
Ah oui, mais ils ont besoin de contact
comme un chien,
permanent.
Presque.
Oui, ils ont vraiment, c'est des chats-chiens, ils ont vraiment, c'est typique de cette race, ils ont besoin de ce contact permanent avec l'homme. Et c'est pour ça qu'elle est comme ça avec vous, Margot, si vous ne connaissiez pas cette race avant, c'est vraiment typiques, ils ont besoin de ce contact, le ronronnement, lécher, etc. Donc, ne la laissez pas vous mordre parce que plus tard, elle va vous mordre encore plus fort.
Et voilà.
Donc, non, vous arrêtez.
C'est maintenant qu'il faut corriger
voilà.
tout ça.
Et continuer à lui faire des câlins, etc. Ça, ils adorent.
Monique est avec nous, elle nous a appelé sur RMC. Bonjour Monique.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Bienvenue.
Oui, j'ai un petit chien qui a 7 mois et il a la maladie, la démodécie.
La démodécie.
Voilà.
Alors, c'est quoi comme chien?
C'est un Jacques Roussel.
D'accord. Et c'est grave ou pas la forme qu'il a?
j'ai regardé sur internet, c'est un genre de gale.
Non, non, mais ça je sais, mais je veux dire, lui, votre chien.
Oui, oui.
Quels sont ses symptômes, Monique?
Eh ben, il a des démangeaisons. Et puis, il y a des endroits sous le ventre, il a des petites plaques, le poil, il s'en va.
D'accord. Et votre vétérinaire a fait un raclage et a vu des parasites.
Il a dit que c'était une maladie de la peau.
Voilà, une démodécie.
Alors, Laetitia, voilà. Il faudrait nous expliquer ce que
c'est. Alors, une démodécie. Alors, oui, c'est une forme de. Alors, la gale, c'est dû à des acariens. La démodécie, c'est une maladie parasitaire de la peau et c'est dû à un parasite qui s'appelle Demodex. Alors, le petit Demodex, c'est un parasite, un petit acarien microscopique qui se met à la base du poil. Et d'ailleurs, François,
oui.
Sur les ailes de votre nez, vous avez des Demodex, j'en suis sûre.
Sur les ailes de mon nez?
Oui.
C'est pas vrai.
Chez l'homme, il y a des Demodex sur les ailes.
Chez l'homme, mais pas chez la femme.
Moins chez la femme, mais plus chez l'homme.
Ah ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me nettoie
le nez? Non, non, parce que plus de 50% des chiens ont ces parasites à la base du poil. Et n'ont pas de lésions.
De toute façon, on a des acariens partout.
Voilà, c'est pas quelque chose. Alors, la démodécie, il y a deux formes de démodécie. Il y a la démodécie du jeune chiot. Et ça, c'est la forme que vous avez, là, Monique, avec votre chakra seul. Alors, on a des dépilations, rarement des démangeaisons, mais ça peut arriver, avec des plaques qui se colorent noires, qui se pigmentent. Et ça passe très vite. Enfin, bien souvent, c'est des formes bénignes qui passent, et c'est pas grave. Alors, c'est même si c'est dû à un acarien, un parasite, ce n'est pas du tout contagieux. Ce n'est pas contagieux entre chiens. Ce n'est pas contagieux entre chiens et d'autres animaux. Ce n'est pas contagieux à l'homme. Donc déjà, vous êtes rassuré là-dessus. Votre chien peut rencontrer d'autres chiens ou même dormir avec vous, il n'y a pas de problème. Et alors, ce qu'il y a de particulier avec cette maladie, c'est que ces acariens passe de chien à chien à un moment très particulier. C'est pendant les premiers jours de la vie du chiot, quand le chiot est en contact avec sa mère. Ah. Et c'est à ce moment-là, au moment où elle allait, que l'acarien peut passer de la mère au petit.
D'accord. Et il saute du corps de la mère au corps du petit.
Voilà, il saute, si vous voulez, comme une puce.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Laetitia?
Alors, quand il y a la maladie chez le chiot, quand il la développe, parce qu'il peut porter l'acarien sans la développer, il y a des traitements, soit des lotions, soit des comprimés, soit des pipettes.
Quand c'est déclaré, comme sur le jack de Monique?
Voilà, lotion, comprimé ou pipette, il n'y a pas de problème, surtout que c'est un jeune. En revanche, faut savoir que il portera toute sa vie cet acarien et ça peut rechuter quand il sera adulte à l'occasion de ce qu'on appelle une immunodépression, c'est-à-dire quand son système immunitaire fonctionne moins bien, comme par exemple quand il a une maladie type diabète ou autre. Donc si
on n'arrive pas à éradiquer
on ne blanchit pas. Non, et comme je vous dis, 50% des chiens la maladie. Donc voilà, ce qu'on recommande de faire, et ça vous allez dire ça à l'éleveur, c'est de ne pas faire reproduire les chiennes qui donnent des petits la démodécie.
Allez dire ça à l'éleveur, c'est pas gagné, hein.
Ah, un éleveur professionnel.
Oui.
C'est ce que connaît cette maladie et c'est qu'il ne faut pas faire reproduire les chiennes qui ne donnent des portées avec des petites démodéciques.
Merci Monique. Bon, Laetitia, bientôt 6h30, la météo, les infos et on reviendra avec Audrey qui va nous parler de son dog argentin qui est sourd. Et elle veut nous en parler. Et puis, bien évidemment, vous pouvez à tout moment nous appeler au 3216 pour poser vos questions animaux ou bien animaux@rmc.fr. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous laisser votre numéro de téléphone. À tout de suite, on revient dans quelques minutes.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC.
Laetitia, il est temps de retrouver une petite question flash. Est-ce que vous êtes prête à répondre à la question d'Alice?
Oui.
Qu'on a reçu par mail, animaux@rmc.fr. Depuis hier, Laetitia, mon chat lèche le sol de ma terrasse et se roule dessus. C'est pratique, ça fait le ménage. Comment interpréter ce comportement?
Alice, arrêtez de mettre de la crème d'anchois sur notre terrasse.
Ou du poisson.
Ou du poisson.
Qu'est-ce qui s'est passé là?
Ah, je ne sais pas pourquoi il fait le nettoyage de printemps, mais à mon avis, il y a une odeur qui l'excite. Alors, soit vous avez nettoyé votre terrasse avec de l'eau de Javel, soit un produit ammoniaqué, et ça, ça excite les chats. Ils se roulent dedans, ils se lèchent. Par exemple, quand vous nettoyez le carrelage avec l'eau de Javel, vous avez des chats qui lèchent le carrelage après, hein, parce que ça vraiment, ça les excite.
Soit, mais ça peut pas les intoxiquer s'il reste encore un peu de Javel.
Oui, quand même, ça peut même les brûler, brûler la langue. Mais bon, soit il y a sur votre terrasse une odeur qui ressemble à des phéromones sexuelles de chat.
Ah.
Genre, vous savez, ce qu'on appelle l'herbeau-chat, c'est de la catère, ou alors, je sais pas, de la valériane, peut-être, enfin, je sais pas, ou peut-être il y a une chatte qui est passée et qui a fait...
quelque chose.
Ses urines. Et elle est en chaleur.
Ah oui, et donc là, c'est la catastrophe.
Eh ouais, peut-être que c'est ça. Soit c'est aussi une odeur d'olive aussi. L'olive aussi excite beaucoup les chats. Vous voyez, toutes ces odeurs excitent les chats.
Oui, si on a fait tomber de l'huile d'olive, par exemple.
Eh ben voilà, la vinaigrette.
Et voilà.
À l'huile d'olive.
Aïe, 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 ça peut être ça.
Ça peut être ça
donc
aussi.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien nettoyer la terrasse, là.
Oui, je vois pas autre chose. Ou vous le laissez, et puis vous nous envoyez la petite vidéo.
Ah oui, ça serait drôle.
Trop
d'avoir
drôle.
Ce chat qui lèche la terrasse et qui se roule dessus comme ça.
Voilà. Vous nous envoyez la vidéo, vous mettez sur YouTube, vous aurez beaucoup, beaucoup de, de likes.
Mais si vous voulez nous envoyer vos vidéos, vos photos, parce que justement, il y a des petits moments que vous voulez partager avec nous, animaux@rmc.fr. A tout de suite.
RMC, c'est au 32-16.
34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, le week-end des experts. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, le retour du week-end des experts et les animaux sur RMC jusqu'à 7h, exceptionnellement, puisqu'à partir de 7h, je vous le rappelle, vous retrouverez le Grand Prix de Chine en direct et en intégralité avec Jean-Luc Roy et puis toute l'équipe de la Dream Team F1. 7h, 10h donc pour vivre ce grand rendez-vous de Formule 1 sur RMC, la RMC qui est la radio de la Formule 1, hein, bien évidemment. Laetitia, on est ensemble jusqu'à 7h. Tout à l'heure, nous aurons avec nous Frédéric Foujat, qui est réalisateur du documentaire Le plus beau pays du monde. C'est le deuxième opus qui sera bientôt diffusé sur France 2. Après le succès du premier, on parlera justement de ce nouvel épisode. Mais d'ici là, place à vos questions en priorité pour joindre Laetitia le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. On vous attend. N'hésitez pas à poser votre question ou à témoigner dans le domaine des animaux. Et nous accueillons tout de suite Audrey qui est là. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Audrey.
Bonjour, bonjour à vous deux.
Alors, vous avez un chien sourd?
Alors, on a une dogue argentine sourde, ouais.
D'accord.
C'est pas étonnant, hein, parce que souvent je dis que le gène de la surdité est lié au gène de la robe blanche et un dogo, enfin un dog argentin, c'est un chien blanc. Et c'est vrai qu'il y a, je dis pas mal, mais il y a quand même des dogs argentins qui sont sourds.
Oui, c'est vrai.
Et il est vraiment sourd, Audrey, il n'entend rien?
Apparemment, on l'a testé, elle entendrait, mais il faut vraiment taper très très fort dans les mains ou crier très fort.
D'accord. Parce que il y a beaucoup de dogs argentins qui sont sourds que d'une oreille et du coup on s'en aperçoit pas.
Ah oui, parce qu'ils entendent malgré tout, donc ils répondent à nos sollicitations.
Et voilà.
Ou pas.
Ou pas. Voilà. Des fois, enfin, ils sont aussi têtus, hein, ces chiens-là. Hein. Ils font le sourd.
Voilà, nous, quand on l'a eu bébé, on se doutait pas du tout parce que dans la portée d'avant, il n'y en avait pas eu. Donc, on l'a élevé au départ petite comme si elle entendait. Donc, c'est vrai que par contre, on savait que c'était un caractère très têtu, qui faisait du genre « je vous écoute pas, je m'en fous ». Donc, on est parti là-dessus. On l'a promené détaché pour lui apprendre le rappel, nanana. Et puis, un jour, mon mari l'a promenée détachée. Elle était dos à la route. Enfin, elle était sur la route de dos. Une voiture est arrivée derrière. Elle lui a mis un coup de frein et un coup de klaxon. Et la chienne n'a même pas réagi, quoi. Donc,
ouais.
Là,
on s'est aperçu. Et c'est là.
Effectivement.
Mais c'est très fréquent. Vous savez, souvent, on s'aperçoit bien tard que le chien qu'on a à la maison est sourd. C'est comme vous dites, on pense que le chien, bon, il est jeune, il fait ce qu'il veut, il écoute quand il veut.
Non, mais en fait, il n'entend pas.
Et en fin de compte, il n'entend pas. Et c'est vrai que nous-mêmes vétérinaires, on essaye de faire attention quand on voit des chiens blancs ou des chiens en majorité blancs aussi. Hein. Par exemple, les dalmatiens qui n'ont pas beaucoup de poids, et ben on teste pour savoir s'ils sont pas sourds. Et il y a aussi des bulldogs français. Vous savez, la mode est aux bulldogs français. noir et blanc, et ils ont beaucoup de succès. Mais il y a beaucoup de bulldogs français qui sont sourds parce que voilà, trop blanc aussi. Donc on fait attention à ces chiens blancs justement.
Et alors Audrey, votre question c'était de savoir s'il existait des méthodes d'éducation appropriées en fait aux chiens sourds, c'est ça?
Voilà, parce qu'en prenant un molosse, on s'est quand même dirigé sur un centre d'éducation canine.
Vous avez bien, vous avez bien fait, oui.
Voilà, c'est une chose qu'on devrait tous faire d'ailleurs avec les chiots.
Bien sûr.
Qu'ils soient, mais donc du coup on est parti sur l'éducation chiot, donc dans un centre. Qui eux aussi, bon bah on a fait comme tout le monde, hein, on l'a testé avec les clac clac de chaque côté et bon on s'en est pas aperçu de suite, donc on l'a élevé comme ça. Et du coup on est sachant qu'elle était sourde, on est plus parti après sur essayer de lui inculquer donc une éducation sur la du fait qu'elle se fixe sur nous en fait, pour qu'on puisse lui faire une éducation avec des signes. On n'avait pas trop le choix, il a fallu créer le langage des signes en fait.
Voilà, et on communique avec un chien sourd par le langage des signes, mais le plus important, c'est qu'il vous regarde.
Et c'est ça qui était très dur.
Et c'est très dur, je sais. Parce il faut apprendre au chien à toujours vous regarder, et c'est ça qui est le plus dur. Alors vous avez vous avez pris un collier vibrant, hein, je crois.
Alors non, pour le moment le collier vibrant on est en attente.
Oui.
Là mon mari qui est en train de passer ses formations pour être éducateur canin, il est sur le cliqueur lumineux. Donc là il est en train de débuter le cliqueur lumineux avec elle.
Bien,
apparemment ça se passe bien.
C'est bien.
Apparemment ça se passe bien. On a des bons retours.
Mais moi j'associerais les deux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas la même fonction. Le collier à vibration, c'est juste pour dire au chien, je t'appelle, regarde-moi.
Voilà, c'est ça.
Alors que le cliqueur lumineux, c'est juste pour souligner un bon comportement du chien. Un petit peu comme le cliqueur, ce qu'on appelle la méthode du cliqueur training. C'est le cliqueur qui normalement fait un bruit. Bon, bah là, c'est lumineux, mais je savais pas que le lumineux existait. Ça permet de souligner un comportement qu'on désire chez le chien et lui dire, ça, c'est bien ce que tu fais.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, nous, on est parti sur ces méthodes-là, parce que c'est des méthodes dont on nous a parlé et qu'on a trouvé en discutant, parce que du coup dans un club canin vous êtes entouré de beaucoup de professionnels.
Oui.
Et mon mari faisant la formation en plus, il voit encore plus de professionnels, donc c'est vrai que... Et après si jamais sur l'antenne où il y a des gens qui eux ont eu recours à d'autres méthodes qui peuvent être sympas, s'ils peuvent nous en faire part.
Ah oui, savoir, ça serait bien.
C'est toujours sympa d'avoir des nouvelles méthodes ou des avis sur quelqu'un. Nous, au club, on a quand même une dame qui est sourde, donc qui est appareillée, hein, et son chien est sourd et ils font de l'agility toutes les deux quand même. Donc c'est faisable, hein, y a pas de souci.
Mais oui, y a pas de problème. Mais écoutez, oui, on demande aux auditeurs qui ont des chiens sourds de nous appeler, de nous écrire pour nous dire un petit peu, pour témoigner sur leur expérience. Parce que je connais pas, moi, d'éducateur spécialiste de chiens sourds.
Non, ça n'existe pas.
Alors que je trouve qu'il y a de plus en plus de chiens sourds.
Ah bon?
Ouais.
Et en tout cas...
C'est le travail génétique, ça.
Et oui, bien sûr. Il y a ça, et puis aussi le fait que, vous savez, il y a 50 ans, un chien sourd, on le gardait pas. Faut le dire aussi.
Bien sûr.
Hein, par exemple, un chasseur avec un chien sourd, ben bien sûr, il ne le gardait pas. Donc voilà, hein, donc personne n'en voulait. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus investi dans notre chien, dans l'éducation, etc. Et là, c'est super parce qu'en plus, votre mari veut devenir éducateur, mais il a, enfin, c'est de l'or pour lui presque,
super.
Parce que là, c'est vraiment de l'exercice poussé. Donc voilà, si vous avez de l'expérience concernant des chiens sourds, si vous êtes vous-même éducateur et vous éduquez des chiens sourds, surtout, n'hésitez pas, parce que moi j'ai beaucoup de questions sur les chiens sourds et moi ça m'intéresse justement d'approfondir ce sujet.
Alors le 32-16 ou bien animaux@rmc.fr ou alors un petit coucou sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Au passage, vous cliquez sur j'aime. On poursuit avec vos questions non-stop en ce dimanche matin et nous accueillons Dominique. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
Bienvenue,
bonjour.
Dominique.
Bonjour. Bienvenue.
On vous écoute.
Merci. Merci. Voilà ma question. Donc j'ai acheté il y a quelques mois un petit cocker qui a maintenant 5 mois.
Oui.
Et bon, qui est très gentil, mais malheureusement pour nous, elle est pas propre. Donc on est sur une maison avec un terrain, donc elle sort, elle fait ses besoins dehors. Et souvent quand elle rentre, eh ben elle continue. Donc elle fait la petite et la grosse commission.
Dedans.
Ah ouais. Mmh. Dedans. Et
qu'est-ce que vous avez fait pour
Eh ben en fait, au début, on lui disait rien du tout. On disait bon, les jeunes, donc on l'a laissé faire. Puis après, on a commencé un petit peu à l'agrandir, mais bon,
ça marche pas.
Non, c'est sans effet. Puis elle s'arrête devant nous, elle s'arrête devant nous et pof.
Eh oui, bah oui.
Voilà. Donc, j'ai déjà eu des cockers, mais je me souviens plus comment on faisait.
Vous avez plus le mode voilà. d'emploi.
J'ai perdu.
Bon. Voilà. Alors, le seul problème que vous avez, vous, Dominique, c'est que vous avez un jardin. Or, c'est tellement facile de dire, bon, bah, je mets le chien dans le jardin, il va faire ses besoins.
Oui, voilà.
Mais le problème, c'est qu'il apprend pas dans le jardin. D'accord. Parce que le jardin ne peut pas dire au chien, c'est très bien ce que tu viens de faire. Par contre, vous, vous pouvez le dire. Donc, ce qu'il faut faire, alors, d'abord une chose, c'est que l'apprentissage de la propreté commence dès le jour où le chien arrive chez vous. Ça faut vraiment qu'il ait 2 mois, 3 mois ou 4 mois, on commence déjà à lui apprendre la propreté, hein. Tout en sachant quand même qu'il peut y avoir des accidents, parce que c'est un jeune chiot, et que, il peut pas se retenir non plus 8 heures, hein. Voilà. À 5 mois, faut se dire qu'elle peut se retenir, 4 heures, 5 heures, hein. Sauf la nuit où elle peut se retenir plus longtemps parce que,
voilà. C'est moi, effectivement.
Voilà, la nuit, c'est physiologique. On a un relâchement de la vessie qui fait que le chien peut se retenir plus longtemps quand il dort. Heureusement, parce que sinon. Mais voilà. Alors ce qui est très très important, c'est de suivre le chien quand il va dehors. Alors, quand on est en appartement, c'est facile. On sort le chien et on sait à quel moment il fait dehors et on sait à quel moment il faut le récompenser. Parce que les punitions, on arrête, hein, Dominique. Parce que
voilà.
Oui, parce que les punitions, en fin de compte, ça d'expérience, en apprentissage de la propreté, c'est contre-productif. Ok. D'accord.
Merci, entendu. Dominique.
Entendu. Ben, merci à vous.
Merci et bon dimanche à vous.
Ouais, pareil, au revoir, merci.
À bientôt. Et si tout comme Dominique, vous voulez nous joindre ce dimanche matin, profitez-en. 3216, animaux@rmc.fr. Laetitia, on a encore une petite dizaine de minutes à passer ensemble avant de céder la place à toute l'équipe de la Formule 1 et Jean-Luc Roy pour le Grand Prix de Chine. On va retrouver encore quelques questions et puis on va s'intéresser au documentaire Le plus beau pays du monde. Il s'agit de l'épisode 2 qui sera diffusé ce 14 avril. Et on en parle avec le réalisateur qui sera avec nous au téléphone. A tout de suite, c'est RMC, c'est le week-end des experts.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Bienvenue à vous. Vous venez peut-être d'arriver sur RMC en ce dimanche matin, c'est le week-end des experts et c'est les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin encore pendant quelques minutes. Et puis à partir de 7h, donc après la météo, les infos, vous retrouverez le Grand Prix de Chine en direct et en intégralité. Donc pas de rendez-vous auto, hein, en ce dimanche matin, on sera là avec Jean-Luc la semaine prochaine. Laetitia, avant de découvrir le deuxième opus du plus beau pays du monde qui sera diffusé sur France 2 mardi prochain, nous allons nous intéresser à une petite question mail, c'est la question de Didier. Oui. Didier qui nous a joint animaux@rmc.fr et qui nous écrit ceci. Mon chien Hidalgo, qui est un berger des Pyrénées à poil long de 19 mois, déteste la musique d'accordéon. Et alors ce qui se passe quand il entend ce genre de musique, il hurle à la mort, Laetitia, quand il entend l'accordéon. Et ainsi que Manu Chao. Tiens, c'est rigolo parce que
c'est pas la même chose.
C'est à la fois l'accordéon et Manu Chao. C'est étonnant. Est-ce douloureux pour lui? Pose comme question dédiée. Ou apprécie-t-il tellement la musique qu'il en réclame encore?
Alors, je ne pense pas qu'il la réclame. Je ne pense pas.
Mais c'est étonnant quand même. Hein.
Oui, on dit que la musique adoucit les mœurs. Ben, écoutez, pas n'importe quelle musique. Hein.
Et là, Manu Chao, donc en plus, il n'aime pas ça. Hein.
Moi, j'adore. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Moi, mon chien, c'est la flûte traversière. Chaque chien, c'est quelque chose de différent. Alors, c'est souvent dans les sons aigus, quand même. Hein, où, à mon avis, c'est très désagréable pour leurs oreilles, qui sont des oreilles fines, bien sûr. Hein, ils entendent très
bien.
Beaucoup
plus fines que les nôtres. Hein,
et voilà. Hein. Donc, il y a ça. Il y a d'abord le fait d'être désagréable. Et ensuite, il y a un comportement de meute. C'est-à-dire que quand un chien entend un autre chien hurler, qui souvent hurle dans les aigus, instinctivement, il hurle pour couvrir sa voix. Alors, ils communiquent entre eux, mais c'est surtout pour couvrir sa voix. Donc, je pense qu'un chien qui hurle en entendant une musique qu'il n'apprécie pas, parce qu'en fin de compte, il ne l'apprécie pas, il veut couvrir de sa voix cette musique. Et il y a aussi, et ça, je l'ai remarqué parce qu'il y a certains génériques de feuilletons qui font hurler des chiens. Moi, j'ai vu sur Internet, il y avait un chien qui hurlait dès qu'il entendait le générique de « Plus belle la vie ». Mais je pense que
on peut le comprendre,
son maître ou sa maîtresse.
Franchement, moi, quand je vois le générique de Plus belle la vie, je hurle aussi. Hein.
Mais je pense aussi qu'il y a un autre fait, c'est que quand sa maîtresse ou son maître va regarder Plus belle la vie, il est excité de regarder Plus belle la vie.
Ah oui, d'accord, donc il le ressent.
Donc il ressent une excitation chez son maître, du coup il s'excite, du coup il hurle, et du coup son maître le caresse ou rigole, etc. Et il y a un conditionnement.
C'est un rituel après, il
après,
le fait
après
chaque
c'est fois. Un rituel. Moi j'ai même vu un chien qui hurlait quand il entendait la chanson de Céline Dion sur le Titanic, quand même.
Ah oui, bon ça donc... c'est logique, parce que peut-être qu'il s'imagine sur un bateau là, c'est un peu plus compliqué.
Pas.
Qu'est-ce qu'il faut faire là et... Il faut arrêter d'écouter de l'accordéon et du Manu Chao.
Bah écoutez,
pour Didier.
Voilà. Alors soit vous faites l'indifférent et puis vous poussez la musique à fond. Ce que vous pouvez faire, c'est pousser encore plus fort pour
le
couvrir.
Chien. Et là, il va partir le chien.
Oui, le voisin aussi, mais.
Ouais.
Ça peut jouer. Ou vous faites rien, ou vous arrêtez d'écouter l'accordéon, ou vous le mettez dans une autre pièce.
Tout simplement. Voilà, on dédicace ce petit morceau d'accordéon bien sympathique à Hidalgo, donc le chien de Didier. C'est très drôle.
Là, le maître n'a pas écouté la réponse, parce que
le chien est en train de hurler. Ouais, on imagine là. Le chien de Didier est en train d'écouter la radio, ça doit être drôle. Bon allez, on change d'univers maintenant, on va s'intéresser à la télé. France 2, mardi prochain, mardi 14 avril, sera diffusé donc le deuxième épisode du plus beau pays du monde, Laetitia.
Et c'est en prime time, comme on dit, à 20h50. Et nous avons
rare, un documentaire animalier sur France 2 à 20h50.
Et oui, et nous allons justement parler avec Frédéric Fougeat, qui est producteur, réalisateur et auteur de ce documentaire, Le plus beau pays du monde. Frédéric, bonjour, bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Alors, je disais tout à l'heure en début d'émission, le premier opus du plus beau pays du monde avait été diffusé il y a un an, à Noël 2013.
Ouais.
Voilà, j'allais dire 2014, mais non, c'est 2013. Mmh. Et il avait quand même eu le plus beau score de la télé, allez, pour un documentaire animalier, 7 millions de téléspectateurs. C'est quand même énorme.
Ouais, c'était du jamais vu, en fait, puisque.
C'était du jamais vu.
J'ai jamais vu ça, et 7 millions, c'était le meilleur score de l'année. C'était, on avait battu même les séries américaines et tout ça.
Hein. Incroyable. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est quand même un film documentaire animalier. Non pas au bout du monde. Et vous restez en France, vous êtes resté en France, et c'est la faune sauvage française. Alors, comment est né ce projet?
Ben, l'idée, c'est que, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de documentaires au bout du monde sur des animaux très spectaculaires, les lions, les guépards et autres singes. Et on s'est rendu compte avec France 2 il y a 3-4 ans, je crois, on était à Cannes et on se disait, mais finalement, il n'y a rien sur notre pays, il n'y a pas des grands spectacles sur notre pays, sur notre faune qui est pourtant assez intéressante, il y a plein d'histoires à raconter. Est-ce qu'il y aurait ce défi à relever de faire finalement du grand spectacle avec nos histoires de nature, pas seulement avec les girafes et les éléphants. Et moi j'ai dit bah j'y vais, je fonce. Et France 2 m'a suivi, donc on a démarré ce projet, on a écrit, on a mis pas mal de temps à trouver les bonnes histoires et le bon filon, mais finalement. On a découvert, parce qu'au début je n'y croyais pas vraiment, mais en le faisant on a découvert qu'il y avait des fantastiques histoires à raconter, et puis qu'on pouvait, avec si on y mettait les moyens, la patience et la technologie, qu'on pouvait filmer notre nature d'une manière très spectaculaire.
C'est spectaculaire, et en tout cas c'est magnifique. Moi j'ai eu la chance de visionner ce deuxième épisode que vous verrez mardi soir. C'est vraiment fabuleux. Alors on voit des écureuils, des faons, des lynx, des cygnes, des renards, des corbeaux bien sûr s'il y a des renards. Ils sont au générique de votre film, mais quels ont été les animaux les plus difficiles à filmer?
Et Je dirais que les plus difficiles, c'est les plus farouches.
Oui. Hein.
Les grues cendrées qui viennent en France passer l'hiver sont extrêmement difficiles à filer parce que à 400 mètres, si elles nous repèrent à 400 mètres, elles s'en vont. Donc il faut vraiment être très discret, faut se planquer, faut attendre, faut les bonnes conditions. Mmh. Mais les grues cendrées, c'est difficile, oui.
Alors la voix off est assurée par Bruno Salomon, qui est humoriste, comédien.
Oui.
Pourquoi l'avoir choisi?
Ouais, il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a une voix magnifique, je
c'est
trouve.
Vrai.
Il a un timbre extraordinaire. Ensuite, c'est un bon comédien et il a accepté de travailler dans des conditions. C'est difficile d'enregistrer ces voix-là. C'est un vrai travail d'interprétation. Ça prend 4 jours en studio. Il a accepté ces conditions. Et puis, il y a aussi l'idée de jouer la carte France 2. Je travaille avec France 2. Bruno est une personnalité de France 2, donc on joue l'antenne, c'est aussi quelque chose de...
Voilà. D'accord.
Alors Frédéric, donnez-nous quelques secrets de
oui.
tournage là, hein, quand même, avant de voir l'opus numéro 2. Alors, est-ce que vous avez, je sais pas, embarqué des caméras sur les oiseaux, est-ce que vous avez utilisé des drones?
Oui. Alors, on a fait des images, justement, on a réalisé des images, c'était en février dernier, donc il n'y a pas très longtemps, janvier-février, qui n'ont jamais été réalisées, vous allez voir ça. On a réussi à mélanger un drone à un vol de 200 oiseaux sauvages, c'est-à-dire, oui, ça n'avait jamais été réalisé, c'est-à-dire des oiseaux en migration, qui ont accepté un drone parmi eux. Alors, comment on s'y est pris? Normalement, évidemment, les drones, ça fait un peu de bruit, puis ça ressemble à des drôles de bêtes.
Oui,
donc
moi
les oiseaux
peur,
s'en éloignent. Hein. Oui, normalement, ils s'en éloignent. Donc, on avait fait plusieurs essais. Et en fait, on a découvert, la première chose, c'est qu'on a découvert qu'il fallait que notre drone soit blanc. Parce que dans la nature, le blanc n'est pas agressif pour ces grands oiseaux.
Mm-hmm.
Ils n'ont pas de prédateurs blancs. Donc on a peint notre drone en blanc. Et puis ensuite,
ça doit faire des plans formidables. Le fait d'avoir un drone comme ça au milieu de ces oiseaux.
Ah, mais vous allez voir, vous volez au milieu de 200 oiseaux.
Incroyable.
Vous êtes au milieu,
ouais.
Et vous volez, comme si vous êtes vous-même un oiseau migrateur au-dessus de la France.
Mm.
Et le deuxième facteur, c'est qu'on se mettait en position loin, elle nous voyait à 2 kilomètres, elle voyait le drone. Elles avaient le temps de s'habituer et hop,
d'accord.
On les rejoignait et hop, que ça c'est des belles idées.
Frédéric, on va s'arrêter là pour donner vraiment véritablement envie aux gens qui nous écoutent de regarder France 2 à 20h50 ce mardi.
Ce mardi, c'est un magnifique hommage
super.
À la France, à la faune sauvage française, sa nature. Et vraiment, en plus c'est une histoire. Vous allez voir, c'est multiples histoires. Vous regardez ça comme si vous regardiez un film. C'est très scénarisé, c'est très beau.
Merci beaucoup Frédéric.
Merci.
Merci.
Et on vous souhaite une aussi bonne audience qu'il y a un an et demi.
Ouais, merci beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir.
Alors voilà, Laetitia, on va pas se retrouver dans quelques minutes après la météo les infos, puisque c'est le Grand Prix de Chine qui va enchaîner. Mais on sera là, bien sûr, dimanche prochain, 6h-8h.
Ah bah oui,
voilà.
2 heures d'émission cette fois-ci.
Voilà, on reviendra à nos rendez-vous habituels. Évidemment, pas de rendez-vous auto hein, tout à l'heure avec Jean-Luc Moreau, qui se fait la grâce mat en ce dimanche matin. Mais on sera là dimanche prochain.
On l'embrasse bien fort et je vous embrasse tous. À dimanche prochain.
Jean-Luc Roy et toute la Dream Team F1 dans un instant après la météo et les infos. Bon Grand Prix sur RMC et à très vite. Le week-end prochain, on sera là. Salut à tous.
Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr.